Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
J'espère que t'as quand même des clés, quoi.
Des clés?
Ouais.
Tu veux dire qu'il y a une scène qui se passe dans une serrurerie? Dans le film,
par exemple.
Oh, Stéphane, que vas-tu chercher là?
Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Et non, je ne suis pas Clémence, c'est Stéphane Moïsekis au micro.
C'était bien imité, pourtant.
C'était pas mal, effectivement.
Putain.
C'est l'empreinte résiduelle de Clémence qui parle.
Exactement. La pauvre Clémence, en fait, qui est
dans son bain amniotique en ce moment même.
Qui est au fond du lit et qui voulait être là ce soir.
Surveillée par des machines.
Pour nous entendre parler de Matrix et qui malheureusement n'est pas, puisque voilà, elle est malade pour cette émission qu'on enregistre un peu à la dernière minute pour pouvoir proposer cet épisode dans les temps de la sortie du film, etc., etc., etc. Mais bon, alors, ils se sont déjà un petit peu présentés, mais je vais quand même faire un petit tour d'horizon. J'ai Julien Dupuis à ma gauche.
Salut Stéphane.
Salut Julien. À ses côtés, Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Stéphane.
Et aux côtés de Rafik, Yannick Dahan.
Salut.
Salut Yannick. Et évidemment, au micro, Alain Mercier.
Salut Stéphane.
Parce que moi, je lui donne pas la parole, mais en général, Clémence lui donne la parole. Donc finalement, moi, comme c'est son émission à elle, je le fais là.
Alain, c'est notre mouse à nous. Voilà, on est dans le vaisseau et c'est lui qui a tous les écrans devant lui.
Alors je vais faire beaucoup plus simple que Clémence, hein, je la laisserai, elle revient la semaine prochaine, vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais pas faire de grosses présentations pour Matrix Resurrection, c'est juste un film réalisé par Lana Wachowski qui est sorti aujourd'hui au moment où on enregistre, donc le 22 décembre 2021. Et par contre je vais garder en fait ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire je vais vous demander votre météo. Alors je vais commencer par toi Julien.
Oui, alors merci Stéphane Clémence.
Stéphane tout court.
Non, bah moi c'est une grande pluie bien froide, tu vois, et c'est pas de bol, j'ai pas mon parapluie, si tu veux, je suis sous l'abribus. Mmh. J'arrête pas de me dire, mais il va y avoir une petite accalmie et je vais pouvoir partir, tu vois, sous le soleil, même si la pluie reprend à la fin, c'est pas très grave parce qu'il y aura eu cette petite accalmie, mais l'accalmie ne vient pas. Ouais. Et je reste sous mon abribus, malheureux comme les pierres.
Bravo. Rafik.
Alors j'ai une question, si j'ai le sentiment qu'il pleut, est-ce que la pluie est réelle?
Bon. Il fait le malin déjà, direct, bim.
Voilà, d'accord. Je crois que vous avez commencé à comprendre ce qu'on a pensé du film. Et toi Yannick, alors une petite météo?
Alors moi tu m'as pris au débeauté, je savais pas qu'il fallait faire la météo. Alors
je vais te dire le truc. Quand bien même t'aurais fait 50 émissions, tu le saurais toujours pas.
Je le saurais toujours pas.
Voilà.
Con sur les côtés, mais
je vais te dire ciel
bas et lourd,
d'accord,
comme dans la
et
poésie.
Toi,
tu te rappelles
Stéphane,
quand le ciel bas et lourd tombe comme un couvercle sur l'esprit gémissant ou proie aux longs ennuis.
Voilà, tu vois, t'as rien préparé, mais c'est pas mal finalement.
Et ça correspond assez finalement.
Ouais, moi ma météo, c'est, vous vous rappelez ce moment dans la simulation du premier Matrix où il dit on sait pas qui c'est qui a attaqué en premier, mais on sait qu'on est les premiers à avoir brisé le ciel en fait. Bah, c'est le ciel qu'on voit là, enfin le soleil qui a explosé, c'est ça, Matrix Résurrection, c'est comment tout détruire, quoi.
Bienvenue voilà. Dans le désert du réel.
Exactement. Qui veut se lancer en premier dans cette affaire? Parce que là, je vous vois tous les trois chauds bouillants, là. Je pense que nos auditeurs ont compris qu'on n'est pas hyper fan du film.
On va percer l'abcès, hein,
ouais.
Tout de suite. Hein.
Ouais.
Donc on Vas-y. Va commencer par, je pense, l'aspect sur lequel... On nous attend pas forcément, je sais pas, concernant une émission comme ça, le temps pour un film, Stéroïdes, Capture Mag, tout ça. Les Matrix, on les aborde d'abord et avant tout comme des films d'action.
Mm-hmm.
On est d'accord ?
Non, non, bien sûr.
Voilà.
J'ai quelque chose à dire là-dessus qui te concerne d'ailleurs.
Donc, ah ben.
Bah, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, non, mais finis, finis ton idée, Raph, mais je veux bien enchaîner là-dessus, justement.
Et donc, déjà d'emblée, si on le prend comme un film unique qui ne serait pas précédé d'une quelconque aura, etc., de quelconque préquel, est-ce que c'est un bon film d'action ? Non. Très clairement, et autour de cette table, je crois que c'est la première chose qui nous a vraiment complètement retourné, c'est de se dire, mais attends deux secondes, parce qu'effectivement, on sait que ce film a été réalisé par une moitié des Wachowski. On n'a jamais su exactement comme c'était un binôme qui fonctionnait vraiment, comme souvent les jumeaux, de façon très, très...
fusionnelle.
Voilà. Qui faisait quoi. Et là, de réaliser que, ah, donc, a priori, le James Cameron de la bande, c'était l'autre, quoi. Parce que c'est la première chose qui choque, c'est la mollesse absolue des séquences d'action, le fait que un plan sur deux semble avoir été fait par une caméra de secours, là où on était habitué à des pas seulement à des instants comic book, parce qu'évidemment dans les Matrix il y a toujours un instantané sur un plan complètement waouh, que là on a parfois. Mais aussi, il faut savoir que tout ce qu'il y a entre ces plans waouh, c'était incroyablement bien fait de façon méthodique, si tu veux.
Précis.
Et précise en termes de lisibilité, de profondeur de champ, d'utilisation du design, etc., à des fins d'action, et puis surtout de créer un sens dans l'action, en fait. Ce qui n'allait plus du tout le cas, et ça, dès la séquence d'ouverture, qui singe ouvertement, explicitement, la séquence d'ouverture du premier, mais en mal filmé. Donc ça, c'est la première chose.
Ça pourrait être une volonté, en fait, de la part du film de casser quelque chose. On
effectivement,
en parlait,
ouais. Parce qu'il y a une réplique dans cette séquence d'ouverture qui est « Pourquoi utiliser un vieux code pour faire du neuf ?» Sauf que non, en fait, tu fais même pas de l'ancien, puisque tu ne répliques même pas à l'identique la mise en scène dynamique du premier.
Et non seulement ça, mais alors tu peux aussi te dire, parce que moi, à cette étape-là du film, j'étais dans la volonté de donner toutes ses chances au film et de me dire qu'est-ce qu'elle va me proposer en fait avec tout ça. Et y a une vague proposition, une ombre de proposition qui fait jour, puisque t'as un point de vue sur cette réplique de la scène. Donc la scène, elle est refaite pourrie exprès, enfin tu peux dire ça comme ça. Et tu te dis oui, mais c'est pas très grave parce que finalement t'as ce point de vue extérieur qui va te donner une autre perspective en fait sur la situation. Sauf que, et c'est intéressant parce qu'à mon avis, ça cristallise beaucoup de problèmes en fait, de ce film-là. C'est que finalement, ce point de vue extérieur n'est pas du tout travaillé. C'est-à-dire que c'est posé, tu as une espèce d'idée qui est laissée en plan complètement là et qui n'est pas du tout, enfin à mon sens, pas travaillée de façon satisfaisante. Et pour rebondir effectivement sur ce que tu disais sur la scène d'action, moi j'avais envie de citer Rafik dans une interview qu'il avait donnée pour... Mais j'aime beaucoup ce que tu avais dit là-dessus sur je crois que c'était dans Suck My Geek, l'interview que tu donnais avec Yann, là, où tu disais, dans Gremlins, on aime beaucoup tout le côté, le sous-texte politique...
C'était zombie.
Peut-être. Alors, je vais reprendre du coup sur zombie, mais tout le sous-texte... Mais ce qui nous plaît à la base, c'est les zombies.
C'est ça, le truc
de Matrix, c'est que... Oui, évidemment, et c'est pas à Raph, évidemment, que je vais l'apprendre, ça. Il y a du fond dans Matrix, il y a un truc qui est passionnant dans la première trilogie, mais ce qui nous a... Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a plu au début dans Matrix, c'est que je voyais un super blockbuster comme j'en avais jamais vu auparavant, qui brassait qui avait réussi à rendre en un tout cohérent une culture foisonnante qui n'avait pas été exploitée, réappropriée par les États-Unis à l'époque.
Et on n'en est plus là aujourd'hui, parce que vraiment tout ça, ça a été intégré. Alors,
j'attends pas ça, si tu veux,
bien sûr.
Mais c'est vrai qu'il faut revenir, je pense, effectivement aux fondamentaux, là. Et se dire déjà, en tant qu'objet cinéma, en tant que blockbuster, et moi je suis très basique là-dessus, je vais au cinéma d'abord et avant tout pour m'amuser. J'y vais, évidemment, si le film me fait réfléchir, c'est cool, c'est super, je le prends et je le placerai au-dessus du reste. Mais je vais d'abord au cinéma pour en prendre plein la gueule et m'amuser.
Je vais te couper.
Et là déjà, c'est pas ça.
Je vais te couper deux secondes, Julien, parce que comme je ne suis pas Clément, j'ai mal fait mon travail. Il faut quand même qu'on précise, on l'a pas encore commencé, mais bon, les gens le savent, hein, mais si c'est la première fois que vous écoutez ça, le temps pour un film, si c'est la première fois que vous nous écoutez, on spoil tout. Donc on va vraiment spoiler le film. Là, c'est vraiment impossible de passer à côté. Et même, j'ai envie de dire, c'est difficile de pitcher vraiment le film, puisque en gros, on est dans une espèce de reboot de la Matrice, alors que tous les personnages en fait de la première trilogie sont plus ou moins morts, mais ils sont là finalement vivants. Un personnage comme le personnage de Keanu Reeves, qui joue donc toujours Thomas Anderson, qui est mal dans sa peau, ne comprend pas ce qui lui arrive, et effectivement, des gens reviennent en fait le récupérer et le ramener ce qui se passe 60 ans après dans le monde réel. Dans le monde des humains en fait alors, pour le ressortir avoir, de là voilà, parce qu'il est effectivement le fameux élu voilà, qu'il était dans la première trilogie
qu'il a été repiégé en fait par la matrice, sauf que dans cette matrice Thomas Anderson se voit comme un programmeur de jeux vidéo. Exactement. Qui aurait créé un jeu
qui s'appelle Matrix
extraordinaire qui s'appelait Matrix, qui a été une révolution en son temps.
Mais quelle idée la plus bidon pour un départ de tu alors, vois pour re,
ouais, re, c'est là où je suis pas forcément d'accord mais
moi je trouve ça fake total. Mais je voudrais juste j'aurais bien aimé juste causer séquence d'action parce que une seconde parce que je suis complètement d'accord avec vous, il y a quand même la première trilogie nous a quand même offert des moments de sidération absolue. On a chaque film avait des séquences qu'on n'avait jamais vues au cinéma, ou si on les avait vues un petit peu sous forme de prémisse chez Del Toro au préalable, elles étaient exploitées d'une manière totalement hallucinante dans chacun
des films. Chez Del Toro ou Jackie Chan, hein,
oui,
parce
oui,
que c'est
non,
pas...
Sûr,
ou James,
je,
ou James
je,
Cameron.
Je disais ça aussi par rapport à la fois à la virtuosité de la mise en scène et l'exploitation d'effets spéciaux qu'on n'avait pas vu avant. Donc, effectivement, on avait vu des trucs dans Blade 2 qui nous avaient déjà complètement scotchés, mais derrière, c'est exploité encore plus dans les Matrix. Chacun des films offrait des séquences d'action qu'on n'avait strictement jamais vues. Il n'y a pas un seul moment, je dis bien un seul moment pour moi en tout cas, dans Résurrection, où j'ai eu un quelconque effet de sidération, un quelconque moment où je me suis dit « Putain, ce plan est impressionnant, cet enchaînement de plans est impressionnant ». Je finis juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Julien, tout à l'heure, parce que j'ai commencé à entendre aussi dans les réactions des gens ce côté « Ouh là là, c'est un film volontairement anti-hollywoodien, volontairement anti-spectaculaire, donc c'est quelque part fait exprès sous prétexte que c'est un vieux code, que ça soit dégueulasse ». Non, sauf que c'est dégueulasse jusqu'à la fin. Toutes les scènes d'action du film sont ratées, sont filmées comme une pauvre série B, comme on en a vu pléthore depuis 10 ans. Aucune scénographie, la moitié du temps, il n'y a pas de lisibilité dans l'action. C'est, pour moi, c'est complètement dramatique. Et puis surtout, si la volonté était d'être un anti-Matrix, entre guillemets, un anti-blockbuster spectaculaire, ben, on ne se taperait pas d'interminables fusillades qui sont plus ennuyeuses, tu meurs, et qui tuent. C'est-à-dire qu'elle les filme. Mais elle les filme, on a l'impression qu'on en a rien à foutre. Que c'est une façon de dire, bon, ben, je fais des fusillades parce qu'on est dans Matrix, faut faire des fusillades ou faut faire du kung-fu, mais je m'en tape. La phrase percutante de la bande-annonce qui était I still know kung-fu.
Elle est fausse.
D'abord, elle est fausse et elle est placée, mais en termes de montage, c'est la punchline la plus naze que j'ai vue de ma vie au moment où elle a été placée.
C'est
quoi.
Terrible, hein, mais c'est presque. Je sais pas ce que t'en penses, ça fait presque truc de Marvel en fait.
Mais c'est ça. Plus les blagues, je peux pas voler avec le petit insert sur la tête de Carrie Anne Moss qui fait oh là là, leur chouma. Moi, j'ai vu ce truc-là, mais c'était fini, quoi. Bon, heureusement que ça arrive à la fin du film, parce que j'étais là, c'est du Marvel, quoi, de base.
Ce que tu pointes en plus du doigt, Yannick, en fait, c'est très vrai, parce que dans le film, il y a cette volonté de refaire des plans, en fait, des précédents Matrix, tu vois. Donc, pas seulement dans la scène d'ouverture, hein, mais par exemple, dans le nouveau combat avec Monsieur Smith, il refait le plan, en fait, des coups de poing comme ça, qui étaient hyper impressionnants à l'époque, hein, quand tu le voyais vu du dessus. T'as pareil, l'hélico, en fait, qui balance ses douilles. Et le problème, c'est que ces plans-là, en fait, tu les reconnais parce qu'ils ont existé et qu'ils t'ont marqué à l'époque, mais en fait, là, tu les regardes, ils sont pourris, quoi.
Ils sont beaucoup moins bien, c'est ça le truc.
Un petit détail, moi j'ai même été choqué dans la scène de poursuite en bagnole où en fait, bon, t'as l'impression que c'est Gandalf Néo dans le film, c'est la seule chose qu'il fait, c'est tendre les mains pour. C'est ce moment, c'est une des rares grosses cascades du film, c'est je tape sur la voiture. Et je te fais exactement le même plan que dans Hellboy. Exactement le même plan. Tu vois, alors quand j'ai vu ça, au bout d'un moment, je me suis dit, tu vois, l'influence de Del Toro est telle que même là où il n'y a pas d'idée, on va aller repêcher des idées de mise en scène dans un vieux Del Toro pour les recycler. Enfin, pour moi, c'est pas possible.
Dans le podcast qu'on a fait sur West Side Story, on évoquait l'analogie entre le musical au cinéma d'action. Le cinéma d'action, ça fonctionne effectivement comme de la musique. C'est-à-dire que ces plans waouh qu'il y a dans les Matrix originaux, c'est comme une longue note tenue sur une guitare électrique, si tu veux. Sauf que si tu prends un truc légendaire de Jimi Hendrix, un solo absolument dément qui a marqué son époque, ben oui, bien sûr qu'il y a des notes tenues, mais enfin il y a toute la dynamique de notes avant et après, et cette note tenue, elle fonctionne parce que ça fait une minute que le mec est en train de taper comme un furieux sur sa guitare. Donc en fait, si tu prends que les notes tenues de Jimi Hendrix, ben c'est juste totalement insignifiant. bon.
La
problématique qu'on a, c'est ça, c'est que on a des instantanés qui se voudraient hyper iconographiques, très comic book, etc. Un beau ralenti sur une cascade impossible, mais t'es là, tu fais oui, mais ça sort d'où? J'ai rien eu avant. J'invite les gens.
Il arrive pas à créer une montée en crescendo.
Pour comparer avec un film des Wachowski, encore une fois, qui a été lui pour le coup traîné plus bactère que Jupiter Ascending, en termes de séquence d'action, la séquence de vol à travers la ville, elle était stupéfiante. Parce que c'était une construction musicale, tu vois, donc, et pas juste des instantanés.
Mais il y a cette problématique qui se pose. Alors vous ne l'avez pas vu, Spider-Man No Way Home, qui est sorti la semaine dernière, mais il y a cette problématique que je me posais entre Spider-Man et Matrix, qu'on a vu, moi personnellement, j'ai vu la même semaine, en fait, et de vraiment de me dire, en fait, on parle de Reloaded ou on parle de Spider-Man 2, qui sont des films qui ont presque 20 ans maintenant et qui continuent à avoir des scènes d'action complètement dingues, que tu peux revoir, même si tu peux te dire que certains effets ont vieilli, etc., etc., vraiment impressionnantes, et ces films-là n'arrivent pas à proposer, et j'ai pas d'équivalent hein, ces dernières années, en fait, de films qui arrivent à proposer quelque chose, en fait, qui participe de ce langage du cinéma pour essayer de proposer quelque chose de, à l'époque en tout cas.
Bah, Fury Road a tué
voilà,
le game.
Oui, voilà. Donc c'est vrai.
Mais
que...
ça va au-delà de la scène d'action, parce que c'est marrant
oui.
quand le film cite le vieux film, les vieux Matrix, tout en ayant une petite ironie sarcastique hein, quand même assez régulièrement. Hein, c'est-à-dire on s'en moque quand même de la première trilogie. Elle se moque de la première trilogie.
Elle la désacralise.
Elle la désacralise, mais ça frôle des fois la moquerie hein, au détour de deux, trois dialogues. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que cette mise en scène qu'elle moque, ces effets dramatiques qu'elle moque, parce qu'à un moment donné, on se moque carrément de l'introduction de Monsieur Smith dans la première trilogie, de choses comme ça. Là où probablement j'ai été le plus atterré en sortant du film, et c'était pas faute non plus de fantasmer dessus, hein, donc au-delà des questions de scénar qu'on verra tout à l'heure, moi c'est la mise en scène globale du film. C'est pas que les scènes d'action. J'ai trouvé le film moche, je n'ai pas trouvé un plan original que j'ai pas vu ailleurs. Ça va jusqu'à réutiliser, et là on va rigoler entre nous, mais ça va jusqu'à réutiliser les effets de style d'un autre réalisateur qu'on adore et dont on critiquait ses effets de style il y a 10 ans, c'est chez Peter Jackson, ces espèces de ralentis oui, dégueulasses.
En post-prod, ouais.
En post-prod, les plans avec le soleil qui perce à travers les vitres, on les a tous vus mille fois mieux filmés dans la première trilogie. Il n'y a même pas une idée de mise en scène dans ce film-là qui peut lui permettre de prétendre être plus novateur que la trilogie dont il s'inspire.
Parce qu'effectivement,
et ça me terrifie.
Effectivement, là, ça a déjà commencé sur le net. Avant même la sortie du film, les gens avaient réussi, bien sûr, à le voir. Et il y avait déjà des discours allant dans le sens de « Oui, mais c'est normal et c'est voulu que les séquences d'action soient pourries, parce que c'est au cœur du projet post-moderne du film. Mais c'est à ce moment-là, tu te dis, si c'était effectivement le cas, si les séquences d'action étaient faites pour être pourries, parce que dans la séquence d'ouverture, je le dis pour, voilà, parce qu'on n'a pas forcément le temps de le voir, mais il y a littéralement un panneau de restaurant qui s'appelle For Those People Who Like to Eat Shit. Ouais. Si on le prend comme une note d'intention, effectivement, en pleine séquence d'action, qui est la première séquence d'action du film, c'est lorsque Bugs, tombe dans le vide, en fait, elle s'accroche à un panneau Anderson, bon, comme par hasard, et en fait, derrière, tu as ce panneau For Those People Who Eat Shit, qui lui permet de pas tomber sur le sol, elle tombe dessus, quoi. Bref, même en restant dans cette logique, ça voudrait dire que le reste des séquences, celles qui proposeraient autre chose, c'est-à-dire seraient-elles réalisées de façon supérieure. Je pense notamment à la première scène de dialogue important entre Neo, enfin Thomas Anderson, et Tiffany qui se révèle être Trinity. Cette séquence là elle participe au cœur du projet, tu vois, de ces retrouvailles, on va dire, et pourtant elle est filmée effectivement avec les sempiternels légers travelling circulaires qu'on voit dans toutes les séries télé aujourd'hui. Donc il n'y a aucune dynamique de scénique à ce niveau là non plus, donc c'est un problème vraiment de...
Est-ce qu'on rentre un peu dans le sujet, vraiment du film, parce qu'en fait, il y a quand même cette idée, moi, alors c'est Yannick l'a pointé du doigt, on en a un petit peu parlé tout ça, et moi je suis assez d'accord avec Yannick, mais toi t'as l'air un petit peu de prendre les choses différemment, et Raph, moi je suis d'accord avec Yannick sur l'idée que la logique du méta, pour rentrer, en fait, ressortir Matrix aujourd'hui, c'est presque la solution de facilité. Et j'ai même presque envie de dire, dans la façon même dont c'est fait là, puisque là on se retrouve avec donc, le personnage de Neo, enfin de Thomas Anderson, qui doit faire une suite à son jeu vidéo dans la propre, dans cette nouvelle version de la Matrice. Et en fait, il a les exécutifs de Warner qui viennent, en fait, si tu veux, lui dire, alors, tu vas faire des, on a fait des études marketing, ça s'appelle M4, tu vois, Matrix pour Matrix 4, tu vas devoir faire tout ça, etc. Ça,
joué par,
ça
Christina, ressemble au monde réel. Par Christina Ricci.
Oui, oui, qui donc, qu'ils ont dirigé dans
Speed Racer. Hein.
Donc, ça ressemble à, clairement, à ce qu'on pourrait supposer, et j'imagine que c'est ce qu'elle a vécu aussi, hein, Lana Wachowski, en fait, quand on lui a proposé de faire Matrix 4, c'est-à-dire des études de marché.
Mais on est assis sur le bullet time, tout ça.
Voilà, toutes des discussions sur le bullet time qui a fini par réutiliser dans le film plus tard, et elle explique aussi, enfin, il y a une explication là-dessus, quoi. Moi, je trouve ça personnellement, déjà, je trouve que c'est le côté ronge-tête. Moi, je suis content quand le film il sort de ça, vraiment. C'est-à-dire que quand il l'arrête d'expliciter le truc. Le méta ne s'arrête jamais.
À cause du caractère, film. Effectivement, explicite. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est que.
C'est surtout qu'on n'est pas dans la narration, voilà. En fait.
C'est que lorsque la trilogie s'est conclue, donc elle. Voilà. Déjà, sur un plan narratif, elles étaient parvenues à un point indépassable. Par rapport à ce que ça racontait. Genre, le final de Matrix Révolution, on est littéralement dans la dissolution de l'homme universel. Au niveau de l'archétype mythologique, tu peux pas aller plus loin dans le récit. Tu vois, c'est la fin de Bouddha, c'est la fin de Jésus. Après, il y a plus d'histoire à raconter une fois que l'homme universel s'est dissolu. Donc, d'emblée, c'est même pas un point final, c'est le point final de tous les récits du monde possible et imaginable. L'être humain ne peut pas raconter au-delà de ce point-là, si tu veux. Donc ça, c'était terminé. Mais évidemment, déjà, dès 2004, on les enjoignait à continuer à développer des trucs, etc. Et elles avaient à l'époque dit, la seule possibilité, la seule ouverture, ça sera dans le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo Matrix Online était censé être la continuation logique de cet univers, parce que il y allait avoir un gameplay émergent, des choses qu'allait nourrir tout ça, mais on peut pas aller plus loin. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça, je pense que voilà, les gens le savent plus ou moins, que pendant des années on les a fait chier régulièrement, on a failli avoir une sorte de reboot balancé par Zach Penn avec Michael Jordan. Enfin, t'imagines un peu le cataclysme qui se profile, et Warner qui au bout d'un moment devient menaçant, quoi. Dans le genre, on va vous dégager, on va renégocier le contrat d'origine et vous foutre à la porte, quoi. Donc il y a eu le décès des parents Ron et Wayne Wachowski, donc, qui sont morts en même temps, qui a été un coup hyper dur pour les deux. Et effectivement, Lana a déclaré à cette époque-là qu'elle avait eu, dans une nuit d'insomnie, elle était repartie là-dedans, parce que pour elle, c'est une façon de revisiter un passé confortable, de reconnecter, de l'époque où ses parents étaient vivants.
Pour Lily, c'est exactement l'inverse.
Lily, c'est exactement l'inverse, je ne veux pas retourner là-bas, voilà.
Il faut préciser ça, hein, elle n'est absolument pas, son nom n'est pas dans le générique. Et quand je dis son nom n'est pas dans le générique, il n'y a même pas un remerciement, rien. Il y a d'autres Wachowski, je ne sais pas, je n'ai pas regardé exactement qui étaient les membres de la famille. Il y a évidemment une dédicace aux parents on peut considérer assez touchante, hein, puisque en fait la dédicace dit à la fin tout commence par l'amour, quoi. C'est dans le sujet du film, on va dire. Mais le nom de Lily n'est pas du tout là. Et effectivement, Lily a précisé, elle a dit voilà, moi je ne vois pas l'intérêt de me relancer dans un truc que j'ai déjà fait. Et en fait, à ce stade de ma vie, je ne vois pas pourquoi je continuerai à bosser pour ce genre de truc.
Et donc, effectivement, comment tu développes à partir d'un point absolument final? En fait, tu reviens à la source, c'est-à-dire tu reviens à toi. Donc, l'idée de revenir au créateur, c'est-à-dire au personnage joué par Keanu Reeves, qui a généré cet univers complet, terminé, fini, et qui, des années plus tard, est amené à contempler en fait sa création et se dire mais au fond, est-ce que je me suis émancipé? Est-ce que je me suis libéré? Est-ce que non, il est toujours prisonnier, tu vois? Donc il y a ça à prendre en compte, je pense, dans la biographie de Lana. Donc c'est un film auto-réflexif à ce niveau-là, et le jeu vidéo, parce que c'était censé être le domaine dans lequel Matrix pouvait spontanément se développer, et aussi l'impact que ces films ont pu avoir dans la société. Est-ce que la société a décidé d'en faire? C'est quand même des films qui ont j'ai beaucoup écrit là-dessus, qui pour moi ont toujours été des happenings artistiques visant justement à proposer à son public un moment d'entière liberté créative, c'est-à-dire avec cette fameuse idée de free your mind, quoi, enfin genre libère-toi. Oui, on vit dans un monde d'argent, d'intérêt, de manipulation des émotions, de tout ce que tu veux, mais il y a quand même moyen d'en sortir. Et le caractère initiatique, on va dire, de la trilogie, qui te prend pas par la main, mais qui attendait de toi que tu fasses l'effort de t'engager dans ce chemin à fond dans cette fiction pour justement te réinventer. Qu'est-ce que ça a donné? Bon, eh ben, ça a donné ça. Ça a donné effectivement Warner qui est sur le point de, comme on dit, voilà, le capitalisme est quelque chose qui réussit toujours à reprendre et à redigérer sa propre contre-culture, quoi. Et c'est effectivement Matrix est devenu au fil des ans un objet par lequel on peut te réemprisonner.
Alors il y a un point qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que, et peut-être Alain qui a toujours le micro là va peut-être me confirmer, quoi. Il se trouve que je crois, hein, Alain, on a essayé à un moment donné peut-être de faire un marathon de la trilogie, voilà. Et en fait, apparemment, dans la période de sortie du film, ce n'est pas possible. Marathon pour Warner, aujourd'hui, ça veut dire le premier Matrix et le quatrième Matrix. Et en fait, le 2 et le 3 ne doivent pas être considérés et pris en fait, dans la promotion globale en fait, de la sortie du 4. Ce qui veut dire que je pense que ça vient du fait que en gros, ils ont peur d'avoir des réactions similaires à celles d'il y a 20 ans quand Matrix Reloaded est sorti, notamment, et le fait que tout le monde a chié dessus, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un film qui s'est fait traîner dans la boue, quoi. Mais c'est quand même assez hallucinant, puisque déjà, d'une part, le film le prend en compte, prend vraiment la trilogie en compte, c'est-à-dire tout... Si les gosses qui ont pas vu, on va dire, qui veulent voir Matrix 4, qui ont vu que le premier, s'ils ont pas vu le 2 et le 3, ils savent pas qui est Niobe, ils savent pas qui est Satie, qui apparaît aussi dans le film, ils savent pas tout ça.
Que Trinity meurt.
Mais voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un petit peu compliqué quand même d'avoir ce truc-là. Mais c'est surtout, tu te dis, en fait, ce qui compte, finalement, c'est vraiment ce qui était les éléments, le côté cool, en fait, les éléments constitutifs, en fait, du premier film. Et mine de rien, moi, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que je trouve qu'en fait, on reste en surface. Même si le truc est traité, on reste énormément en surface de ça. Avec justement l'idée que, par exemple, il y a des idées que moi je trouve, il y a des idées qui sont plutôt bien, tu vois. C'est-à-dire l'idée, donc je spoil, que Morpheus est mort, parce que ça se passe 60 ans après, mais que finalement, le Thomas Neo, en fait, le recrée dans un programme, l'assimile à l'agent Smith, et en fait, en gros, si tu veux le faire venir pour lui dire, ok, c'est toi qui vas me libérer, en gros, de la même manière que tu m'as libéré, voilà, mais que ce soit un programme, c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec un mec qui joue le pimp. Tu vois, en désacralisant la logique, en fait, si tu veux, de la théâtralité, on va dire, du Morpheus interprété par Laurence Fishburne.
Mais c'est ça, je vais pas aller aussi loin, moi, Trafic, j'en aurais pas les armes et j'ai pas cette connaissance, j'ai pas poussé à ce point-là l'analyse, mais c'est vrai qu'il y a cette autre problématique fondamentale, à mon avis, dans ce film de Crott, qui est que, en fait, t'as des pistes comme ça qui, parfois, peuvent te sembler intéressantes, et celle-ci en fait partie. Mais rien n'est poussé à son... C'est-à-dire que Matrix...
Ou trop, en fait, dans une mauvaise direction, quoi.
Bah, j'en sais rien, en fait, si tu veux, parce que le truc, c'est que... C'est un truc dont on parlait tous les deux en sortant de la Projo, Steph, mais c'est-à-dire que t'as quand même la sensation que... Oui, pourquoi pas, moi, je trouve qu'il y a des amorces de choses ou d'idées qui sont pas inintéressantes. Et notamment dans la scène d'action finale, Yann disait tout à l'heure que tout était pourri, etc. Moi, je sais qu'il y a un tout petit moment, en fait, dans le film... où j'ai eu à la fois un moment d'euphorie de scène d'action, où je me suis dit, putain, il y a un truc qui est en train de se passer là, je m'attendais pas du tout à ça, qui rajoute du danger direct en fait sur les protagonistes, et qui visuellement est plein de promesses, et qui est cet instant où en fait tous les habitants de la matrice
de la ville, les boss,
deviennent eux-mêmes des espèces d'armes humaines, on va dire comme ça,
bombes.
De kamikazes, qui vont se précipiter en fait dans une perte totale pour devenir les obstacles.
L'exécution.
Et, voilà, et ils se mettent à se jeter comme ça des fenêtres.
L'idée,
en fait,
elle est super. Mais t'as vu l'exécution, quoi.
Voilà, alors. Ouais.
C'est le problème, hein.
J'ai eu ce petit moment, je me suis dit, putain, il se passe un truc génial, quoi. Où il y a un truc où enfin, ce qu'elle essaye de me dire depuis le début prend sens dans une scène d'action, dans un truc qui n'est pas juste un dialogue entre des personnages, et peut. Et porteur en promesse, en fait, de scène d'action. Sauf que, et ça, encore une fois, je trouve que ça cristallise, encore une fois, toutes les problématiques du film, c'est que c'est complètement abandonné. C'est-à-dire qu'elle amorce ce truc-là. Moi, j'ai eu ce petit moment, je me suis relevé sur mon fauteuil, je me suis dit, putain, il se passe un truc, enfin, quoi. Et j'ai été complètement déçu par ce qui se passe ensuite. Il n'y a pas de résolution, c'est pas
Tu t'attends à ce que ça soit la scène de l'autoroute sur Reloaded, voilà. Mais avec
c'est
ça, quoi.
C'est exactement pareil avec le Mérovingien et les exilés qui arrivent, qui font leur petit caméo.
C'est une super idée.
Tu te dis,
c'est une super idée. On a écrasé les programmes un peu trop...
Ils vont faire quelque chose.
Elle en fait que dalle.
Elle en fait rien.
Elle règle ses comptes, je pense, à travers cette séquence spécifiquement des exilés. Mais ce que dit Julien est très intéressant sur les, sur effectivement le côté signifiant, le côté signifiant en fait de cette surprise. Ce qui est signifiant avec ces bots, c'est que c'est des gens normaux, on va dire, enfin censément les gens normaux de la matrice, qui tout d'un coup deviennent préprogrammés et deviennent un danger pour ce que représentent Neo et Trinity. Donc une façon de pointer du doigt plus ou moins explicitement au public, de se dire attention, vous êtes le danger,
potentiellement danger.
Vous êtes ce qui est en train de détruire.
Vous n'êtes plus les victimes. Voilà. Et ça, c'est passionnant aujourd'hui.
Ce qui est en train de détruire ce que symbolisait ce couple, c'est-à-dire à l'époque une possibilité de libération, une ouverture à un chemin que vous avez emprunté ou pas. Donc tu l'as rappelé, Matrix Reloaded et Révolution ont été conchiés avec une violence inouïe parce qu'il y avait une portion de la population qui a refusé ce chemin.
Exactement. Je pense que en plus, si tu veux, à mon avis, cette scène-là, elle m'a provoqué quelque chose. C'est exactement ce dont on parlait avec Steph et tout en sortant, parce qu'elle a vécu Speed Racer, les sorties de Speed Racer, de Jupiter Ascending, de Cloud Atlas et tout ça, qui ont été justement en plus complètement, même des deux Matrix, des deux suites de Matrix, qui ont été justement complètement rejetées par ce public qui va après à côté plébisciter les Marvel.
Et qui est plus ou moins enfermé dans cette figure du geek qui travaille avec Thomas Anderson, qui a l'air de connaître par cœur sur le bout des doigts l'univers et ses résonances, et qui en réalité est un obstacle.
Mais c'est un des problèmes du film pour moi, c'est-à-dire que si vous restez jusqu'au bout du générique, et nous on est resté jusqu'au bout du générique, t'es pas resté ce matin.
Non, moi j'ai zappé la fin.
Voilà, mais c'est
terrible. Ça.
C'est une scène très bizarre parce que en fait, en gros, donc ils reviennent dans le bureau où ils sont en train de brainstormer sur le potentiel de Matrix 4, quoi. Et en gros, t'as un personnage de créatif ronge-tête, là, qui dit en gros aux autres...
Cool, ouais.
Voilà, c'est ça, qui dit aux autres... qui est dans la lignée de ce qu'on a vu, en fait, pendant les scènes de réunion, les scènes de brainstorm et tout, quoi, qui sont dans la première partie du film, quoi. Qui dit en gros, bon, le cinéma est mort. Là, tu te dis, bon, ok, elle est en train de désigner un truc spécifique. Le jeu vidéo est mort, l'art est mort. Il faut arrêter tout ça. De toute façon, ce que les gens attendent, c'est des vidéos de chats. Et on appelle ça Chatrix, quoi. Donc c'est un gag. Tu sors avec ça, t'es censé avoir la banane, tu vois, etc., etc. Sauf que là, nous, on regarde cette scène et on se dit, mais c'est quoi cette note d'intention ? C'est-à-dire que, comme tu l'as pointé du doigt, Julien, c'est-à-dire, tu peux penser que quand elle est dans le méta, en fait, quand elle dit à quoi ça sert, en fait, de faire du neuf avec un vieux code, ou etc., etc., c'est une manière de critiquer la façon dont les films se font aujourd'hui, c'est-à-dire la pop culture est redigérée. Mais dans ce cas-là, si tu fais ça, pourquoi est-ce que dans la première fois de ta carrière, tu fais un instant shawarma ?
Exactement.
C'est-à-dire comme à la fin d'Avengers, c'est-à-dire un truc qui sert, à mon sens, à rien, quoi. Alors, soit on est dans le méta, mais pour moi, en fait, encore une fois, Matrix, je suis pas là-dedans. Non, mais d'accord. Mais attends, Yann, je termine.
Vas-y.
Soit on est dans le méta, etc. Mais moi, pour moi, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, mon problème là-dedans, c'est qu'à un moment donné, quoi qu'on me dise, quoi qu'on en pense, ce qui m'intéresse, moi, à la base dans Matrix, c'est en fait une intrigue mythologique, mais en fait ramenée à ce qu'on raconte sur l'humain. Et là, le problème, c'est que moi, mon problème avec ce film de manière globale, parce que j'aimerais vraiment qu'on concentre un peu sur ce que ça raconte aussi, c'est-à-dire que mon problème avec ce film, c'est que pour moi, je me suis retapé, je pense comme vous tous, la trilogie juste avant de revoir le 4, c'était un peu nécessaire, il fallait vraiment se remettre dedans, quoi. Et Matrix, enfin la trilogie en entier, c'est une œuvre ontologique, c'est-à-dire c'est une œuvre qui parle de l'être humain, c'est-à-dire de façon globale, c'est-à-dire dans son esprit, dans sa philosophie, dans tout ça, etc., etc. Et là, ce que j'ai l'impression, qu'on arrive 20 ans après avec une œuvre qui ne parle pas de ça. Alors ils en parlent, pour moi spécifiquement dans un biais, mais peut-être vous allez me contredire, tu vois, qui est, l'amour, le sentiment, etc., etc., admettons. Et ça, d'ailleurs, c'est pas le truc le plus raté pour moi dans le film, ça va encore à peu près. Je pense qu'il y a un attachement aussi à la trilogie, mais par contre, le vrai problème, c'est que du coup, ça parle de la société actuelle, et ça, je m'en fous. Il n'y a pas d'universalité, il n'y a plus d'universalité pour moi dans ce film. Et c'est ça le problème, c'est que d'un seul coup, je me dis, on est à deux doigts de ce film qui aurait été fait par Zach Penn, en fait.
Oui, parce que c'est encore plus pervers pour moi que ça, parce que je suis complètement d'accord, et c'est sans doute moi le truc qui m'a le plus gonflé. J'entends tout ce que vous dites, et ça rendrait presque le film intéressant.
C'est difficile de pas être,
j'entends,
de pas avoir des conversations, de se poser des questions
sur le
film.
C'est pas
quoi.
Ça ce que je dis. J'entends ce que dit Rafik sur la cohérence d'en faire un jeu vidéo par rapport au background de la trilogie, par rapport aux réalisatrices, tout ça. Mais euh, Mais si tu veux, moi, au niveau de la narration, au niveau du film global, j'ai trouvé ça extrêmement bas du front. C'est-à-dire que je ne suis même pas allé décoder du méta, là où pour moi, le méta est réduit à sa plus simple expression, où tout est surligné. Mais on en parlait avec Rafik tout à l'heure, il m'avait dit un truc très juste. Il me dit c'est comme s'il sentait le besoin d'expliciter tout ce que la trilogie première n'explicitait pas, et le dire très clairement pour finalement, une fois qu'on a évacué, donc vous avez bien compris, ça c'est le réel, ça c'est le jeu, ça c'est la fiction. Tout en faisant systématiquement des doubles phrases, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord, c'est la surface, c'est une critique de la société, ça a perdu l'universalité des questionnements qu'il y avait dans la première trilogie, et pas simplement sur l'être humain, sur le réel, sur l'imaginaire, sur la perception, sur la vue, la foi, enfin, tout ça mixé, si tu veux, Baudrillard et Bible, ça avait une densité, c'était quand même une œuvre avec une perspective gnostique, il y avait énormément de choses, une richesse thématique hallucinante, et qui posait la question de au-delà de réalité imaginaire, c'est la question du réel, qu'est-ce qui est fondamentalement et qui sommes-nous par rapport à ce qui est. Moi, ce qui m'emmerde dans celui-là, au-delà du simple fait qu'il se contente de faire des vannes sur les marketeurs, sur Hollywood, sur tout ça, enfin, je pourrais voir ça dans n'importe quelle autre comédie sarcastique américaine. Je veux dire, il y a même pas une profondeur là-dedans. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, ça donne du biscuit à tout le monde et c'est schizophrène. C'est-à-dire, je me fais le chantre de la critique de la société de consommation et je te fais des blagues à la Marvel. Je vais aller juger tel et tel truc sur le spectacle, le blockbuster hollywoodien, mais je tourne mes scènes d'action comme de la merde. Je vais faire semblant d'avoir un discours profond sur certaines choses, et à la fin, je suis complètement soumis au discours dominant. Je veux dire, qu'est-ce que c'était les Matrix ? C'était nous vivons dans une matrice. Enfin, quelque part, il y avait une dimension profondément contestataire qui était de dire « ouvrez les yeux ». À défaut d'ouvrir les yeux, c'était ouvrez votre foi et ne vous fiez pas simplement à votre perception des choses. Ça te retournait le cerveau. C'était un putain de caillou dans une chaussure. C'est pour ça que ça déstabilisait les gens sur Reloaded, sur Révolution, parce que tout d'un coup, on les confrontait à énormément de choses, à leur intelligence, à leur perception des choses, à leur idéologie. Là-dedans, on te fait mine d'être critique et d'être malin en disant regarde Warner, problème de Warner c'est les marketeurs, enfin hey, mec ils te financent entièrement financent entièrement, donc c'est de la fausse critique, c'est de la fausse subversion, c'est un faux pamphlet qui en plus à la fin rentre dans le rang tout ce putain de film.
Calme-toi, Yann.
Non, mais je le dis parce que sur le coup, ça m'a vénère. C'est que je suis ressorti, je me suis dit, mais à quel moment j'ai été dérangé? À quel moment j'ai réfléchi? À quel moment ça m'a déstabilisé? À quel moment ça m'a vraiment posé des questions? Après, je finis. Comme je peux le lire à droite à gauche, ah, mais c'est pas un Matrix, c'est une jolie histoire d'amour. Ouais, c'est une jolie histoire d'amour, hein, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, Neo et Trinité, super, ils se font des bisous à la fin, c'est génial. Et ils s'unissent parce que le film, après tout, pourrait aussi être interprété, comme certains l'ont fait, comme le parcours de Larry vers Lana Wachowski, la recherche de la féminité, l'homme et la femme qui finalement sont indissociables à la fin, ils ne font qu'un.
Il l'a déjà fait, c'était Jupiter Ascending.
Exactement, mais voilà. Je veux dire, tu pourrais le voir comme ça si tu veux, et si ça peut rassurer les gens par rapport à toutes leurs croyances et idéologies actuelles, très très bien. Mais en fait, tu vois, il y a quand même un truc, c'est que... on ne peut pas nier qu'il y a cette lecture aussi dans le film d'une manière ou d'une autre.
Il y a un aveu d'échec parce que ce qui s'est passé à l'époque de Reloaded, c'est que c'est pas la Warner qui leur est rentré dans la gueule, c'est le public. Donc que la forme, parce que je parle de forme initiatique, c'est-à-dire que c'était pas du tout des films c'était pas des films occultes, au sens c'était pas caché, c'était là sous tes yeux, mais par contre ça ne pouvait vraiment prendre sens que si toi tu étais en pleine participation dans le projet. Les gens, la majorité, je pense, à l'époque, ne s'en est pas saisi. Ok. Donc, effectivement, au vu de tout ce qui s'est passé depuis ces années-là, il y a une forme d'aveu d'impuissance de se dire, bon, ben, on fait quoi, tu vois? Enfin bon, en revenant dessus, le jeu sur lequel travaille Thomas Anderson s'appelle Binary. Donc toute la saga Matrix allait vers une dimension trinitaire. Voilà, c'est ça, pour sortir justement de cette vision binaire du monde.
Et il était en avance sur son temps terriblement à cette zone-là.
Oui, mais voit la société aussi dans laquelle on est aujourd'hui.
Exactement.
Où on n'est que dans des confrontations de binarité totale. Voilà. Donc là, il y a un aveu d'échec. Il y a une façon de dire, on vous a donné une chance, vous ne l'avez pas saisie, on vous en donne une deuxième. Et je crois même que c'est dit explicitement vers la fin du film, la notion de deuxième chance. Elle est vraiment explicitée. Sauf que là, effectivement, on va vous souligner au stabilo les éléments, y compris, moi je trouve un des personnages à la fois qui pourrait être le plus intéressant et qui est le plus embarrassant du film, qui est le personnage du psychiatre joué par Neil Patrick Harris.
L'analyste.
Qui est, l'analyste, merci, qui est censé être basiquement
l'architecte soumis au compte. Voilà, il le dit, il est soumis au pont. Oui, c'est un marketeur, en fait. C'est marketeur des machines. Quoi.
Et c'est très intéressant parce que tu vois, nous, par exemple, on va lire le truc en tant que Français. Mmh. On va dire l'analyste. Mmh. Mais l'analyste, en fait, si tu veux, ça peut être donc, oui, le psychiatre, le machin, etc. etc. Mais aux États-Unis, l'analyste, c'est l'analyste, le data analyst. Oui. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est là où ça prend un deuxième sens parce qu'en fait, le data analyst, en fait, il dit « je connais ». Les humains, je connais les choses, etc., etc. Donc en fait, je connais leur exploitation. Mmh. Et l'exploitation par les chiffres, c'est quand même un peu ce qu'on vit depuis oui, 20 ans maintenant.
Très exactement, donc, voilà. On est d'accord. Et pas seulement par rapport au cinéma, mais par rapport à toute
la... Ça fait partie de la même critique. Enfin, ouais. Je veux dire, ça fait partie de cette même critique qu'on évoquait tout à l'heure.
Bien sûr, sauf que...
C'est simple, au final.
Alors, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait... Mais moi, j'ai ce problème avec ce film. Je sais pas si vous avez le même truc. C'est
simplon, hein.
Mais moi, je suis sorti exactement... Le premier truc que j'ai dit à Julien... Alors, je remets un tout... Je l'ai vu deux fois, moi, hein, contrairement à vous, je crois. Donc, je le remets un tout petit peu en question. Mais bon, ça reste quand même... Je reste quand même très, très, très mitigé sur le film. Je suis pas autant en colère que Yannick, par exemple, et tout.
Je suis pas en colère, mais je l'ai vu ce matin, c'était juste sur le coup.
Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que je suis sorti, j'ai dit à Julien, en fait, c'est la menace fantôme de Matrix, ce film. C'est-à-dire qu'en gros, il fait quand même ce qu'il essaye de faire, ce qu'il veut faire, parce qu'il veut ramener des choses dedans. Non, je précise, parce que Rafik fait un petit peu il jette un peu le truc, mais c'est-à-dire que pourquoi j'ai dit la menace fantôme plutôt que, par exemple, le réveil de la force.
Ah non, on a rien
c'est
à voir.
En fait, le truc, c'est que c'est quand même fait déjà.
C'est quand même son auteur,
voilà, c'est ça.
Voilà, qui se prend les pieds dans le tapis, mais c'est.
Et avec la volonté, en fait, de développer son univers, mine de rien, parce que ça, c'est un des éléments dont on n'a pas parlé.
Ou d'en faire surgir des éléments qui étaient implicites et qui deviennent explicites. La politique chez Lucas, elle a toujours existé, sauf qu'effectivement, dans La Menace Fantôme, c'était je te la mets dans la gueule, je te gaffe comme une oie.
Ouais, mais même sans parler de ça, voilà. Tu vois, par exemple, là, dans le film, il y a l'idée que, en fait, d'un seul coup, il y a une collaboration entre les humains et les machines, il y a des créatures sentientes.
Ah oui,
j'ai
pas parlé, effectivement, du robot sorti de Transformers 2, là.
Ouais, t'as l'impression de voir un mauvais film des années 80.
Non, mais. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, le problème, c'est que nous, en tant que spectateurs, il faut aussi voir ce truc-là, c'est qu'on est consigné par la première trilogie à se poser des questions sur tout ce qui se passe, en fait, en tout cas, la première fois qu'on se bouffe le film, quoi. Sortir et faire, mais. C'est un peu léger quand même, non? Tu vois? Et en fait, du coup, te dire, peut-être, faut que je le revoie une deuxième fois pour voir si ça marche. Et pour moi, ce qui peut éventuellement avoir fonctionné émotionnellement, je me pose vraiment la question. Je me suis dit, est-ce que c'est mon plaisir? Tu vois, de retrouver juste ces deux personnages-là ensemble, tu vois, et peut-être le simulacre de ces deux personnages-là ensemble, en fait, créer une histoire d'amour, tu vois, qui était déjà qui fonctionnait très bien pour moi, en fait, même si elle était moins émotionnelle, tu vois, dans la première trilogie. Mmh. Ou est-ce que, en fait, si tu veux, cette histoire d'amour ne fonctionne vraiment pas, en fait, quand je regarde ce film-là, si je l'avais vu sans avoir vu la trilogie précédente.
Moi, ça n'a pas du tout fonctionné.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je vois bien qu'il y a cette volonté d'être une œuvre, j'allais dire sensorielle, mais c'est fou. Elle est sensorielle aussi, la première trilogie, mais plus organique, plus charnelle, si tu veux, plus centrée sur l'humain plutôt que la question de qu'est-ce que c'est être humain fondamentalement. Moi, si tu veux, c'est pour ça. Enfin, je suis pas rentré dans le truc. C'est-à-dire, au-delà de ce que j'ai pu critiquer, quand tu croyais que je m'énervais tout à l'heure, je m'énerve pas, je suis juste dans le... Je suis juste dans le...
passion
quand je parle, c'est tout. Et je n'ai que du ressenti, parce que j'ai vu le film ce matin une seule fois, mais j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait plus de combat. qu'on te dire une œuvre qui est intéressante, c'est une œuvre où on a quelque chose à défendre, quelque chose à dire, quelque chose à interpeller. La première trilogie Matrix, au-delà de ce qu'elle pouvait avoir à dire d'un point de vue intellectuel, en citant Baudrillard et mille autres choses, elle avait aussi la véritable énergie de cinéaste qui était en train de dire mais il existe des cinématographies, il existe des langages que vous ne connaissez pas forcément. Alors, ça allait du film de kung-fu hongkongais au manga japonais, tout ce que tu veux. Il y avait quelque chose à défendre. Moi, et c'est pour ça que j'ai été interrompu tout à l'heure quand je parlais avec Rafik, mais ce que je voulais dire, c'est j'aime pas faire de l'analyse psychologique parce que je veux pas plaquer le film sur la transformation de Lana Wachowski, mais Lana Wachowski est pleinement et entièrement elle-même aujourd'hui. C'est un parcours qui a été un parcours d'acceptation que j'imagine a dû être difficile comme pour beaucoup de gens, ou peut-être pas, mais en tout cas maintenant elle est épanouie, j'ai envie de dire, et c'est un film de gens épanouis, c'est-à-dire que je n'y vois pas de combat. C'est pour ça qu'il y a une espèce, pour moi, hein, cette espèce de satire un peu facile de la société de consommation aujourd'hui, de Facebook, Google, sortie sous forme de blagasse, parce qu'en réalité, derrière, elle raconte une histoire d'amour, mais de façon extrêmement naïve. Je veux dire, la petite fraise dans la ville qui ressemble à Zion, le gentil petit robot qui arrive et qui a l'air de sortir, comme tu dis, d'un vieux truc des années 90, l'arc-en-ciel final qu'on va faire dans le ciel, parce que tu comprends, c'est mieux que la guerre. Enfin, j'avais l'impression par moment, excuse-moi, hein, mais d'entendre le discours Miss France d'une nana qui est à fond amoureuse et pour qui tout va bien dans la vie. Que, donc quelque part, moi je sors du film en me disant en fait c'est vachement bien la Matrice, c'est cool, c'est super, c'est beau, c'est mignon. Tu vois, je n'ai pas l'âpreté qu'il y avait avant, qui était on a quelque chose à dire, on a quelque chose à défendre, et cinématographiquement et conceptuellement parlant. Et là, sur les deux tableaux, il n'y a plus rien pour moi. Il n'y a plus rien. On fait du remplissage.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Yann, parce que oui, on a eu cette. Moi, j'ai eu cette sensation-là, effectivement, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est un peu plus grave que ça. C'est-à-dire, et je reviens encore une fois à cet exemple des gens qui se jettent par la fenêtre, mais. Moi, je pense qu'elle a... J'ai eu, en tout cas, la sensation qu'elle avait éventuellement des choses à raconter. Et encore une fois, je pense que la blessure, elle vient de leur carrière. Mmh. Vraiment, hein. Et qu'elle se confrontait finalement pas à ça, en fait. Peut-être. C'est là où, pour moi, il y a une vraie malhonnêteté, justement, dans le rapport à Warner et à ces trucs-là et tout, quoi. C'est que, finalement, il y a un truc qui se cache, quoi, je trouve, moi, dans ce film. Justement, sur la comment dire, cette nouvelle faculté qu'ont les studios à manipuler le public. Il faut dire les choses aussi au bout d'un moment, comment elles sont, quoi. Et il y a ça, en fait. Je pense qu'il y a ça en germe, quoi.
Ah bah, c'est même pas en germe. Encore une fois, c'est explicité.
Enfin, c'est la norme. Mais c'est pas traité, encore une fois,
putain. Je comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire qui est en germe?
En fait, c'est-à-dire que dans Matrix, initialement, t'as les révoltés, t'as les ennemis, l'antagoniste, et t'as un milieu qui est neutre. Et qui sont les victimes, et qui se font trimballer là-dedans, et qu'il faut réveiller. Et là, il y a cette possibilité qui est entrevue, moi, je trouve, dans le film, de se dire, non, il n'y a plus ces trois trucs-là, en fait. Il y a les révoltés, il y a les mecs qui manipulent, et les autres qui sont du côté des mecs qui manipulent.
Parce qu'ils aiment
c'est le discours de l'analyste à la fin.
Et moi, je pense...
Non, mais c'est une vision intéressante.
Et moi, je pense qu'elle a ça, en fait. Et je pense que parce qu'elle est Lana Wachowski est comme sa sœur, hein, d'ailleurs, hein, elle l'avait déjà déclaré et tout, elles sont sur le déclin, c'est-à-dire que c'est très compliqué, hein, pour elle aujourd'hui, leur carrière, elle est sur le point de s'éteindre.
Ça, j'entends.
Après tout ce qu'elle et ça, je pense que c'est un
mais
truc
ça manque ça manque de vénéritude et... sérieux non, dans la façon de le dire,
c'est juste que c'est pas assumé, en fait.
C'est pas assumé,
et
c'est
encore
ça.
Une fois, c'est pas assumé, et de la même façon, si tu veux, elle a déclaré Lana, et c'est un truc que moi je trouvais dans Cloud Atlas. Et un petit peu dans la première saison aussi de Sense8, que j'aime beaucoup, et la suite c'est une autre histoire, mais la première saison, qui était de chercher une autre forme. C'est-à-dire de dire, nous on était sur un cinéma qui était extrêmement storyboardé, travaillé, cadré, machin et tout, et Lily qui était obsédée par l'idée de symétrie par exemple, et on essaie d'être dans... D'ailleurs elle a changé de directeur de la photo aussi pour ça, hein, maintenant, et d'être dans quelque chose de plus impulsif, d'essayer de capter une espèce de beauté naturelle plus immédiate, on va dire.
Ou de moins exigeant.
Un truc comme ça.
Moins exigeant.
Non, mais pourquoi pas ? Je veux dire, il y a un cinéma magnifique qui s'est développé autour de ça. Je vais pas reciter Terrence Malick. Mais c'est tellement... Enfin voilà, pour être plus évident, voilà.
Et puis ça pourrait être une bonne façon, en fait, ça aurait pu être aussi une bonne façon de régénérer la licence, en fait.
Surtout en particulier avec l'évolution des outils numériques qu'elles avaient déjà mis en place aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, avec les outils numériques et la nouvelle façon de capter le réel, justement, il y a quelque chose, je pense, moi, à travailler autour de ça. À travailler autour d'un côté, une captation du réel extrêmement improvisée, extrêmement viscérale, extrêmement sur le vif, et un travail ultérieur là-dessus qui est, par contre, très poussé dans la maîtrise, mais une maîtrise ultérieure, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose, une forme à créer là-dedans, mais il n'y a rien, en fait, finalement, de ça. C'est-à-dire que, effectivement, au final, tu as l'impression qu'elle n'a utilisé que des facilités, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et il y avait un truc aussi sur lequel je voulais rebondir un peu plus tôt, là, de Stéphane, de tout à l'heure, qui est cette séquence post-générique qui me semble très importante, qui est aussi, je pense, que Matrix nous a tous marqués. Parce que il y a, je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure sur les scènes d'action, parce qu'il y a aussi dans ces grands films-là de genre, bah, je vais limiter ça à ça, enfin excusez-moi pour ces raccourcis-là, mais qu'il y a au bout d'un moment où les tropes qui sont utilisées, tu les kiffes à mort parce qu'ils servent le propos. Et le bullet time, tu le kiffais évidemment parce que ça t'offrait une image mortel, mais finalement, cette image, tu l'avais déjà vue dans Lost in Space.
Exactement. Quelques semaines auparavant.
Mais tu l'as kiffé à mort. Mais en fait, elle faisait sens.
Enfin, ceux qui avaient vu Lost in Space.
C'est-à-dire que tout à coup, elle te disait, mais regarde.
Il change les règles de la matrice.
Tu peux regarder différemment les choses.
Exactement.
On peut, nous, cinéastes, te montrer différemment les choses.
Décomposer le mouvement.
Et en fait, moi, j'ai rien contre le fait que Lana, elle utilise une séquence post-générique. Mais c'est pour qu'elle m'apporte ce recul-là. Pour que tout à coup, cette séquence post-générique me nourrissent ce qu'elle est en train au début de me dire sur l'utilisation et la surexploitation d'une franchise et pourquoi moi aujourd'hui Lana Wachowski je refais une franchise.
Elle avait effectivement l'intention de concevoir sa mise en scène tout à fait autrement. On avait entendu parler de désir de captation totale de l'environnement, etc. Donc on s'attendait effectivement à ce que le travail technologique soit
c'est ce que tu as dans la démo sur PS5, voilà. Au final la reproduction
et tu te retrouves au final avec cette séquence autour du puits avec Satie qui effectivement semble sortir d'un me faisait penser à cette production pourrie d'Oprah Winfrey qui s'appelle Wrinkle in Time que le monde a bien heureusement oublié, quoi.
Un raccourci dans le temps, je crois, en français,
avec la photo, tu dis c'est John Tull qui a la photo, what the fuck. Je veux bien que Bill Pope soit pas disponible, mais enfin c'est quand même dégueulasse.
Bill Pope il a récemment déclaré que le tournage de Reloaded et Révolution avait été vraiment un enfer,
et notamment
à cause du fait, alors lui c'était une blague, hein, dans son truc, enfin, je sais pas si c'était une blague, mais il dit ouais, apparemment ils ont lu un bouquin, Kubrick venait de mourir, ils ont lu un bouquin sur Kubrick qui disait en gros que en fait il fallait épuiser ses acteurs et faire 60 prises en fait pour qu'ils soient vraiment juste. Et apparemment, c'est ce
quelque chose, dégager quelque
voilà.
chose.
Et en fait, c'est ce qui s'est passé sur le film, c'est qu'ils ont passé des heures à tourner des scènes, des prises, quoi.
Je voulais, par contre, par rapport à ce qui m'apparaît être la motivation de Lana sur ce film-là, il y a aussi je pense qu'il y a une tentative de regarder ce qui s'est passé. Déjà, ça s'appelle Matrix Resurrection. Le générique d'ouverture où on a qui dans tous les Matrix est censé être signifiant, bien sûr. On a les chiffres qui tombent vers le bas sur le mot Matrix et ensuite qui remontent sur Resurrection. Donc il y a quelque chose d'assez macabre. Si Matrix était une parabole christique, là on est carrément dans la résurrection de Lazare. Donc quelque chose vraiment de pas très très joli, quoi. On fait, comme tu l'as dit,
entre
Stéphane,
Christ et Lazare, t'es tombé d'un cran.
Mais si tu fais ça, si tu reviens, c'est que tu reviens vers le passé et que tu essaies de voir qu'est-ce qui s'est produit justement, à quel moment ça a déconné. Le premier Matrix, culturellement parlant, évidemment que ça vient du comic book, évidemment que ça vient de Hong Kong, ça vient aussi surtout des premiers temps de l'internet, où on était dans un chaos total, anarchique, où toutes les idées se confrontaient les unes les autres sans aucune hiérarchie ou quoi que ce soit, c'était un bordel sans nom, mais de ce bordel naissait une puissance créative monstrueuse qui a baigné ce film-là. et qui a fait des hackers à l'époque les grands héros du monde moderne. Sauf que par la suite, on s'est retrouvé dans un internet qui s'est très vite normalisé et qui très vite est devenu effectivement une prison, une véritable matrice pour le coup. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les barreaux ça s'appelle Facebook, Instagram, Twitter, et tout le discours, toute la possibilité de créativité humaine a été complètement encapsulé par ce. Et c'est le personnage de l'analyste le dit très clairement. Je voudrais juste ici faire un petit coup de chapeau à Julien Abadi qui avait analysé comme un malade la bande-annonce et qui avait remarqué qu'effectivement dans le bureau du psychiatre on avait que des ouvrages de marketing en fait dans sa bibliothèque, parce qu'effectivement le marketing depuis longtemps utilise toutes les méthodes de manipulation de l'esprit et des émotions des gens. Et
on le voit tous les jours, voilà, en ce moment dans notre vie.
Voilà. Ouais, bah oui. Que justement ces plateformes que j'ai citées, elles scannent 24 heures sur 24 toutes les courbes émotionnelles de la population, avec derrière le discours on vous connaît mieux que vous ne vous connaissez. Et donc de faire dire à ce personnage de néo-architecte que c'est ça le cœur de l'enjeu, l'impossibilité de libération, elle vient de là, elle est liée aussi à nos sentiments et à nos émotions. C'est pour ça que je commençais en disant, si j'ai le sentiment qu'il pleut, est-ce que la pluie est réelle, quoi. Il y a encore une fois une tentative de dire aux gens, faites gaffe, c'est en vous que ça se passe.
Ce qui aurait pu être intéressant, putain, je pense qu'elle l'avait son sujet en plus, c'est ça qui est rageant.
Et en même temps, dans cet aveu d'échec par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années, il y a une forme de revanche. J'y revenais par rapport aux exilés, parce que moi, le moment où j'ai trouvé que c'était vraiment insultant, c'est ce qu'ils ont fait du personnage du mérovingien, qui devient un vieux clodo, qui se fait surnommer Merve, c'est ça, voilà.
Ouais, Merve.
Qui est un moment embarrassant du film.
C'est-à-dire que l'autre, il l'appelle Tom, au lieu de l'appeler Thomas Anderson.
Et je pense que là, il y a une forme de revanche à prendre, justement, sur quand Internet a fini par devenir une prison et donc s'est normalisé à mort, toute cette culture hacker, elle est tombée dans les égouts, tu vois, elle est dans les tréfonds du net, d'où sont nés les mouvements alt-right actuels qui utilisent l'imagerie de Matrix pour faire avancer leurs idées ultra conservatrices et réactionnaires. Et ça, c'est un truc qui, évidemment, les Wachowski, on s'en doute, ça fait un moment que ça les fait chier. Donc il y a aussi une volonté de...
Il y a même un truc très connu sur Twitter, hein, je crois, la fille Trump. Il dit, moi j'ai pris la pilule rouge, plus qui répond en
et
dessous.
Et Lily, vive Wachowski, qui lui dit fuck you.
Il y en a un qui répond aussi, un autre gars, et puis en fait, t'as Lily qui arrive et dit fuck both of you, en fait.
Alors bon, on va passer sur le débat de la tentative de récupérer.
Tu peux comprendre en tant qu'artiste, parce qu'il y a Yannick qui lève les yeux là aussi.
Il
a voté Trump au dernier. Tout ça,
on sait.
Tu peux comprendre qu'un auteur veut.
Historiquement, on sait que tu peux pas maîtriser. Lucas aussi, il a essayé ça. Une fois que tu as créé un archétype, la puissance de l'archétype est que de toute façon, tout le monde va l'utiliser pour sa propre chapelle.
Sauf si tu le détruis. Comme Lucas.
Mais il y a aussi un désir de prendre sa revanche. Effectivement, les exilés, c'est eux. Hein, c'est l'internet des tréfonds, on va dire, quoi. Et la façon avec laquelle ils sont décrits, la façon moqueuse avec laquelle ils sont décrits, c'est pour les renvoyer à ça. Et donc, oui, il y a l'idée
que le mérovingien explique, en fait, en gros, que de son époque, il y avait une sophistication, il y avait de l'originalité, il y avait la volonté en fait
totalement un discours que tu trouverais dans les tréfonds du net.
Exactement, c'est ça, mais bien sûr. Non, mais c'est pour préciser exactement ce que c'est dans la scène. Quoi. Et c'est lui qui parle de Facebook, c'est lui qui parle d'Instagram et tout ça. Quoi.
Voilà, dans cette tentative de revoir vers le passé et de se dire à quel moment ça a merdé, à quel moment c'est mort, il y a, je pense, le désir de encore une fois proposer une deuxième chance aux gens. De séparer ces notions de la manipulation par les émotions et de ce que les émotions humaines génèrent. D'où cette idée de revenir à l'essentiel, qui est justement la question de l'amour, parce qu'il faut quand même rappeler que le film se termine par une citation attribuée aux parents Wachowski, qui est l'amour est à la source de tout. De rappeler aux gens que, encore une fois, c'est à l'intérieur d'eux que ça se passera, quoi. Et que c'est aussi cette puissance d'amour qui sert à la machine pour les manipuler, quoi.
Oui, donc, probablement.
Voilà,
mais c'est
tout ça me semble pas être condamnable en soi.
Est-ce que c'est cucu la praline?
Oui, bien sûr que c'est cucu la praline.
Je le ressentais véritablement. Si tu veux, j'entends ce que tu dis, Rafik, mais je
C'est mal foutu.
Enfin, c'est plus que mal foutu, c'est-à-dire qu'il faut il faut aller triturer pour le
On parlait d'images qui marquent. Donc moi, la seule image du film qui m'a fait vraiment, c'est un moment où quand on voit les multiples fois où Neo et Trinity ont été séparés par la matrice, il y a un plan où ils sont tous les deux dans le même bain amniotique. Ils viennent de se réveiller, de se voir, et les machines les empêchent de se rapprocher l'un de l'autre. Et ils sont là, les mains tendues l'un vers l'autre, et elle est en train de hurler pour essayer de le toucher. Bon, ça, c'est une image qui m'a saisi, parce que j'y voyais effectivement les deux parties de mon cerveau en train de désespérément chercher à se reconnecter pour reconstituer l'être complet, et la machine qui m'empêche de le faire.
Pour aller exactement dans ton sens, c'est marrant, parce que le moment que moi j'ai préféré, enfin le seul moment qui m'a procuré un minimum d'émotion dans le film, c'est exactement la même chose, mais pas dans cette scène. Mmh. C'est au moment où ils essayent de se rapprocher, et où ils sont entourés de...
Les flics,
des militaires dans une espèce de bar. Bon, alors, parce que là, pour le coup, c'est pour moi la seule fois dans le film où il y a une construction de la mise en scène qui crée un véritable crescendo qui amène à la libération de Trinity, qui tout d'un coup se rappelle qu'elle est Trinity. Et là, ça marche. Tu vois, là, j'ai eu le petit frisson. Et je l'ai regretté d'autant plus que ça n'ait pas été exploité, que là, il y a quelque chose quand même que moi, je trouve intéressant. Je n'en fais aucune analyse, je te laisserai la faire, Rafik, parce que t'as plus réfléchi sans doute que moi. Mais moi, cette scène-là m'a rappelé certains Raoul Walsh des années 50, certains films des années 50-60, où il y avait une volonté de blinder d'humanité le cadre. C'est-à-dire que le cadre est surchargé de gens, tu vois.
C'est l'enfer est à lui auquel tu penses.
Probablement l'enfer. C'est
la scène de la prison qui est traumatisante.
Non, pas que celle-là. Il y a aussi le film avec le boxeur.
Gentleman Jim.
Voilà, où t'as quasiment tous les cadres du film qui sont blindés de personnes comme ça. Donc il y a aussi cette question d'humanité. Alors, humanité qui oppresse ces deux personnages, où tu peux les considérer eux-mêmes comme des programmes de la matrice. Donc effectivement, j'en vois pas, si tu veux, cette notion de meute, c'est ce que tu disais, toi tu l'interprétais, Julien, comme étant quelque chose qui pouvait signifier la soumission quelque part des gens à cette matrice là moi je sais pas ce qu'elle a voulu faire avec cette notion de meute, mais c'est pas que la meute des gens qui se jettent des immeubles. C'est qu'il y a 2-3 scènes comme ça où elle blinde le décor de personnages, et qui ne sont pas forcément des personnages humains. Mais je trouvais ça visuellement intéressant, et je trouvais ça dommage que ça n'ait pas été exploité davantage.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, enfin on en a un peu parlé, mais moi je trouve que ça participe de l'aspect méta, mais justement qui est à mon sens qui était plus intéressant, et où t'as l'impression qu'il se passe un peu quelque chose, même si la scène visuellement est assez dégueulasse, c'est vraiment la scène dite bullet time en fait, c'est-à-dire vraiment on s'arrête et on te raconte en gros tout le truc à travers l'utilisation du bullet time. Et en fait, je sais pas ce que vous en pensiez, vous, quoi, mais moi, c'est le seul moment où je me suis d'accord, en fait. Parce que la logique du bullet time, c'est qu'il faut quand même rappeler, c'est que, en fait, c'est une vraie logique narrative. On te prend un effet visuel, comme ils l'ont fait assez régulièrement, les Wachowski, dans leur film, quoi. Et on te prend un effet visuel et on lui donne une vraie signification narrative. Et c'est ce qui a fait que tout le monde a
bloqué. Et un effet visuel hérité de la naissance même du cinéma, c'est-à-dire de la notion de décomposition du mouvement.
Voilà. Et donc, en fait, l'idée, dans la même logique méta, mais qui n'est pas justement forcément de la désacralisation, quoi, pour le coup, c'est vraiment de dire, ok, donc moi, je sais, enfin, le personnage de l'analyse dit, je sais, en fait, que un de tes exploits, c'était ça dans la précédente matrice, donc je l'utilise en fait à ce moment-là pour t'expliquer que moi je te contrôle par rapport à ça. Et là tu te dis pourquoi pas, c'est intéressant, ça va pas beaucoup plus loin, c'est ça qui est malheureux, quoi. Mais c'est vrai que en fait c'était une des scènes où tu te dis là normalement à ce moment-là, si le film était bien fait, voilà, ça serait une vraie putain de scène impressionnante, quoi.
Parce que ça mène à quoi en fait? Qu'est-ce que ça te propose?
J'y pense parce que ça mène à la scène dont parle Yannick aussi, puisque à ce moment-là il y a aussi ce blocage-là, en fait.
Mais c'est pareil, en fait, moi, le problème avec cette séquence-là, c'est que être le travail, ça, en fait, le truc du retour du bullet time et
oui, bien sûr.
Donc, quand elle arrive, bon, bah, tu te dis, d'accord, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et effectivement, elle te propose ce truc-là.
Qui est une non-scène d'action.
Qui est une non-scène d'action, avec effectivement ce personnage d'analyste qui reprend ses droits encore plus à ce moment-là. Et pourquoi pas? Mais là, moi, je suis ouvert, je suis ouvert à tout. Mais encore une fois, donne-moi quelque chose au bout du chemin. Propose-moi quelque chose. Ne te contente pas juste de casser ce qui était placé auparavant. Parce que, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé du coup, Rafik, de ça, mais à quoi bon, en fait?
Non, c'est
vraiment la sensation que ça m'a donné, quoi. Ouais. Tu te dis, mais à quoi bon? Pourquoi tu fais ça, en fait?
C'est embarrassant, mais effectivement, il n'y a rien qui est amené. Et encore une fois, il y a un caractère cérébral évident là-dedans, mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas l'exécution. C'est là où tu dis, effectivement,
cérébral et un peu fake aussi. C'est-à-dire, moi, je maintiens encore, ben, je ne l'ai vu qu'une fois, je le remettrai par exigence personnelle, mais c'est un jeu de fausse piste intellectuelle. En fait, il n'y a pas une cohésion. Moi, le seul truc cohérent que je vois du début jusqu'à la fin, c'est à part cette satire du monde contemporain et cette notion de finalement l'amour devient avec l'union des deux ce qui va déstabiliser les règles de la nouvelle matrice. C'est quand même très bas du front. Franchement, tout le reste, c'est des trucs. C'est comme si on était là en conversation et qu'on lançait des concepts philosophiques à moitié et qu'on n'allait pas jusqu'au bout, quoi. Tu vois,
presque, ouais. Moi, je veux pas résumer, avoir la prétention de résumer la démarche, mais c'est une façon de dire aux gens attention, votre passion et votre amour pour Matrix est aussi un outil de contrôle.
Oui, c'est ça,
d'accord. Mais ouais, c'est pas si clair que ça. Excuse-moi, je veux dire, s'il faut en aller, tu vois, aller décoder un quart de bout de l'image, un tiers de dialogue, c'est pas si clair que ça. Ça ne sonne pas comme une évidence,
alors,
en tout cas.
Alors, du coup, moi
ça ne sonne pas comme une évidence, pardon, Steph, mais parce qu'encore une fois, tu n'as pas de finalité. C'est-à-dire que tu ne débouches pas sur un autre truc. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Rafik, et comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, le bullet time, c'est une mise en perspective de l'outil cinéma. À l'aune de tout ce que le numérique pouvait donner et tout, mais c'est une perspective qui remonte à Muybridge et à ce qu'il faisait avec les chevaux au galop, etc. Et sur la façon dont le cinéma, parce qu'il a ce pouvoir de capter le réel te fournir cette appréciation-là très spécifique du réel, mettait au défi tout ce que l'humain connaissait de ce réel. C'est-à-dire que tout à coup, les mecs se disaient « Ah !» Donc le cheval, il y a bien un moment où les quatre fers sont en l'air. Il y a bien un moment dont
on redécouvrait les réels à travers la décomposition du mouvement.
Il s'est décollé du sol. Mmh. C'est ça, Muybridge. Et c'est ça le bullet time.
J'ai écrit un article en pensant uniquement à Julien Dupuis, précisément sur le bullet time.
Il faut préciser un truc pour les gens qui ne le savent pas. Hein, Rafik avait fait donc le
hors-série
Matrix Happening, qui est devenu le hors-série Rocky Rama et qui est vraiment en fait une énorme exégèse en fait de la première trilogie. Quoi.
Avec un texte dédié entièrement à Julien Dupuis, qui est un texte sur le bullet time.
Tu te débrouilles très bien sans moi. Mais le truc, c'est que là, si tu reviens là-dessus, et si tu reviens avec cet héritage-là, tu touches pas à ça impunément. Et quand bien même tu es en train de déstructurer ce que tu as fait dans le premier film, tu prends en considération tout ce que le premier film trimbalait autour de lui. C'est-à-dire que le premier film n'est pas l'alpha et l'oméga du bullet time. C'est ça ce que je veux dire.
Clairement.
Et là, Lana Wachowski, et je pense que c'est aussi un peu un problème finalement de Matrix Resurrection, te donne parfois un peu l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de la pensée de cette remise en question. En tout cas, c'est ce que donne... Moi, c'est cette scène, cette problématique de la scène du bullet time me donne un peu cette sensation-là. C'est-à-dire que si elle avait réfléchi, si elle était remontée totalement à la source... aux origines du bullet time, là je pense qu'elle aurait donné quelque chose. Sauf que finalement, elle reste à la surface des choses.
Il le faisait.
Alors
qu'elles l'ont fait dans Speed Racer.
Et c'est ça qui est dingue.
Voilà, parce que la fin de Speed Racer, on a le cheval de Muybridge qui défile à côté de la voiture. Quoi.
Exactement.
Toujours une histoire d'exécution.
Et de jusqu'au bout. C'est ça aussi, moi, le problème avec ce film.
Je pense que, voilà, tout le monde y pense, mais personne ne l'a cité. Highlander 2.
Non, j'y pensais pas, mais c'est pas mal. Quelle horreur.
Mais le final du film, c'est quand même, effectivement, une note d'intention qui est assez facile à décrypter, puisque donc ils sautent tous les deux dans le vide. Mm. Et c'est Neo ne peut plus voler, mais en réalité, c'est Trinity qui vole.
C'est l'élu, en fait.
L'élu, ouais.
Voilà, donc entre-temps, évidemment, Larry est devenu Lana. Et donc, du coup, c'est cette partie-là, maintenant, qui permet de soulever tout ça. Mais en termes d'exécution, tu as la pauvre Carrie Anne Moss qui est accrochée à son câble dans le vide et qui est toute ridicule, le cul en l'air, et qui rappelle, effectivement, Christophe Lambert à la fin de d'Highlander 2, quoi.
Outre le...
Et ça, c'est... Oui. C'est un, oui, c'est pas un problème d'implication émotionnelle, c'est un problème de. Mais tu te rends compte du ridicule non, de l'image que tu m'offres à ce moment-là.
Mais même en termes de cohérence, tu parles de Bullet Time au-delà de ce que vous dites sur les origines du cinéma, je suis complètement d'accord. Le Bullet Time dans le film, et même métaphoriquement.
Le Bullet c'est, Time, le bullet c'est time. Une boulette de viande avec la caméra qui tourne autour. Là.
C'est la boulette. Et le Bullet Time, c'est aussi, qu'est-ce que c'est dans l'histoire du Neo de Matrix ? C'est quand même le mec qui tout d'un coup transcende les règles de la matrice. C'est-à-dire qu'il casse les règles de la matrice, il est capable de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, ce qui cinématographiquement est intéressant parce que quelque part cassant la matrice, faisant des choses de super-héros dans la matrice, le cinéma étant devenu un cinéma qui a standardisé ce qui était un cassage de règles dans Matrix, il l'a rendu règle normative du cinéma aujourd'hui. T'es dans une impasse si tu te dis de quelle manière aujourd'hui je vais réinventer la façon de déréguler la matrice. Et quelque part, quand tu te retrouves dans cette scène où l'autre lui explique et lui dit « mais ton bullet time, j'en ai rien à cirer parce que maintenant je le contrôle », bah ça tue toute la fin en fait. Parce que quelque part, le fait même...
Aveu d'échec.
Oui, c'est ça, aveu d'échec. C'est-à-dire le fait même de voler n'est théoriquement pas cohérent par rapport même à la logique de cette matrice qui voudrait que si je maîtrise le bullet time, en réalité, je maîtrise toutes tes tentatives de casser des règles ancestrales. Mais en fait, tu n'y arriveras pas.
Je pense que c'est la finalité, c'est que c'est impardonnable de faire un film comme ça et d'être stérile. Tu peux pas être stérile. C'est pas possible. L'essence même, en fait, de Matrix, et c'est dans le titre, hein, c'est d'être une matrice. C'est de produire quelque chose, de générer quelque chose, de te proposer quelque chose. Et là, on est face à un film qui détruit, qui tente de s'amuser avec les règles et de te proposer, de te montrer pourquoi il faut s'amuser avec ces règles-là, mais qui est dans une incapacité totale, en fait, de surmonter tout ça.
Alors,
et
d'aller au
tout ça.
Et qui, dans sa scène post-générique, te dit, au fond, on va finir avec des chats.
Ouais, avec des vidéos de chats. Des vidéos de chat, c'est pas la même chose parce que c'est ça la scène.
C'est terrible, heureusement que je l'ai pas vu cette fille là.
On va boucler, messieurs, parce que voilà, ça fait quand même maintenant plus d'une heure qu'on parle, hein, même 1h10 quoi. Moi je vais finir par dire juste un truc, et je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je sais que j'avais une attente assez énorme, non pas en fait parce que le film existait en soi, c'est-à-dire que même si je suis un énorme fan de la trilogie originale et que c'est des films qui comptent énormément pour ma cinéphilie, mais parce que je sais que la bande-annonce me proposait quelque chose où je me disais je ne sais pas de quoi ça va parler. C'est-à-dire vraiment il y avait ce truc où je me suis dit la première, la deuxième était beaucoup plus...
Et ça devient...
Voilà, et le problème en fait c'est que finalement en fait je suis sorti du film avec cette impression de... On n'est pas au niveau, et là je parle vraiment en termes de ce que, pas forcément qualitatif en fait visuellement ou tout ça, mais je parle vraiment de thématique et de ton et de tout ça. On n'est pas au niveau de ce que Marvel ou par exemple J.J. Abrams font avec Star Wars, ce genre de choses, mais on est quand même finalement dans la version la plus conformiste de ce que Lana Wachowski... de ce qu'un Wachowski pourrait faire de Matrix. Et c'est ça, finalement, qui est assez...
C'est le plus triste pour moi.
Voilà, qui est assez...
Pour moi, c'est un film qui rentre dans le rang. C'est un film qui est non seulement, pour moi, un aveu d'échec, mais qui, en plus, se met au diapason de beaucoup de choses que l'on considérait médiocres. Même si, je suis d'accord, moi, je compare ce Matrix aux autres. Matrix, je ne vais pas le comparer au Marvel et tout ça, ça n'a pas de sens.
Si tu compares ce Matrix à Star Wars épisode 7, c'est un chef-d'œuvre.
Bien évidemment. Mais malgré tout, c'est déceptif beaucoup pour cette raison-là. Moi, je trouve le film extrêmement plomb-plomb intellectuellement et conformiste moralement.
Et là, j'en reste vraiment sur un point strictement émotionnel. Hein, c'est-à-dire, c'est très difficile de suranalyser le film aujourd'hui. Moi, je l'ai vu que deux fois. Et puis, je pense qu'au final, j'ai l'impression que...
Mais
ce que je veux dire, c'est que c'est un peu difficile de suranalyser le film et de dire voilà, on va justifier beaucoup de choses parce qu'on a aimé la trilogie, donc en fait, on commence à. Putain, mais quand elle lui file une fraise à bouffer, est-ce que ça veut dire que c'est la pilule rouge dans le. Tu vas commencer à partir en tête, en couille et tout, mais le problème, c'est qu'à la fin, finalement, la question, c'est que quand tu regardais la trilogie originale, t'avais envie de revoir les films tout le temps.
Oui.
Et là, le problème, en fait, c'est que Matrix Resurrection,
je
l'ai revu une deuxième fois, j'ai fait bon. Bah, j'ai l'impression d'avoir à peu près fait le tour.
J'ai défendu corps et âme tous leurs films. Je pleure devant Claude Atlas et même Jupiter Ascending, malgré tous les défauts.
Alors qu'on est conscient de tous les défauts, de tout ce qui merde dans les films, mais on ne peut pas ne pas se sentir.
C'est enthousiasmant. C'est des films qui m'ont emporté parce que c'était des films passionnés qui tentaient de proposer des choses. Et moi, je sais que moi, j'ai commencé à lâcher Lana, puisque c'est le moment où elle a commencé à travailler seule. Alors, est-ce qu'il faut y voir un truc de cause à effet ? Je ne sais pas. Mais je sais que déjà sur la deuxième saison de Sense8, j'avais des gros problèmes. Ouais. Il y avait un spécial Noël qui posait des gros problèmes, mais c'était un spécial Noël, c'était à part. On en avait déjà parlé avec Capture, je m'en rappelle avec Raph. Et moi, j'ai déjà eu un point de rupture avec elle qui a été l'épisode spécial de définitif qui se passait en grande partie à Paris, où je me suis dit, il y a un énorme problème. Il y a un problème de conscience de soi, de repli aussi sur soi, quelque part, en fait. Qui était infernal, quoi, notamment dans une longue scène de mariage où tous les personnages étaient en train de s'auto-congratuler, de faire la fête au sommet de la Tour Eiffel. Il y avait une espèce de suffisance, en fait, dans cette œuvre-là qui, toujours, m'avait proposé, me mettait au défi et se mettait elle-même au défi. C'est-à-dire que moi, je les attendais pas sur Claude Atlas, moi, les Wachos. Pas du tout, quoi. Jamais, quand je suis sorti de Matrix Révolution, j'aurais pu penser qu'ils allaient se lancer dans un truc comme ça, dans cette typologie de récit choral-là. Et là, en fait, et moi, Matrix Résurrection, quand le projet a été lancé, je l'ai regardé de façon un peu dubitative.
J'étais juste content qu'il fasse quelque chose. Déjà,
j'étais content qu'il fasse quelque chose. Puis j'étais content, mine de rien, je suis un fan aussi, quoi. J'ai eu grosses réserves, moi, notamment sur Révolution et tout, mais en même temps, je suis quand même un fan et tout. Donc j'avais envie d'y croire, quoi. Et effectivement, la première bande-annonce, notamment avec ce travail sur les projections du premier film, qui pour le coup est un truc que je n'avais pas vu et qui était riche en promesses, et ben là, ils m'ont bien niqué la gueule les mecs de la promo qu'on voit en fait dans Résurrection et tout, parce que je pensais justement que, par exemple, ça, on n'en a pas parlé de ça, hein, mais des projections des films et tout, je me suis dit, elle va faire quelque chose avec ça, c'est obligé, tu joues sur une suite où tu projettes les trucs derrière. Je m'attendais à un travail au corps sur ce qu'est une suite, un peu comme Retour à le futur 2 avait pu travailler au corps sur je te reprojette des scènes du premier et je travaille et tout ça.
C'est une simple visualisation pour dire que l'univers de Matrix existe dans cette nouvelle Matrix.
C'est triste. Hein.
C'est une tristesse monumentale.
Moi, c'est triste, le film, je le trouve triste comme l'époque. En fait, je le trouve triste comme l'époque. Mais... C'est là où je te dis, c'est qu'au-delà même de notre regard cinématographique, il y a une espèce de... Pour moi, il y a une forme de renoncement, qui est le renoncement de l'époque. Et je trouve ça dramatique.
La scène post-générique t'annonce, enfin, un personnage t'annonce, avec ironie certes, mais quand même, c'est quand même la fin du film que le cinéma est mort. Donc,
Mais le Matrix, enfin en tout cas l'héritage de Matrix, ne lui appartient plus maintenant, je pense, à Lana Wachowski, qui s'arrivera ailleurs, hein, par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tous ces films qu'on voit apparaître aujourd'hui... moi, je trouve qu'on est dans une période chouette. Hein, on a West Side Story, on a le prochain Del Toro qui arrive et tout ça.
On n'a pas parlé du personnage.
Mais je pense que finalement, et c'est un peu la même chose avec George Lucas, c'est-à-dire que ça lui a... En fait, ce qu'elle a planté, ce qu'elle a essaimé...
C'est plus elle qui va faire...
Ce qu'elle a essaimé avec Matrix, la trilogie Matrix, ne lui appartient plus. C'est plus elle.
Alors,
elle aurait dû passer à autre chose, ou alors elle est trop vieille, ou elle a changé de vie, elle a...
Je pense que quand elle écrit le personnage de Bugs, elle pense à ça. Le personnage de Bugs, dont je resitue, elle est... c'est une laveuse de carreaux, de la même façon que les Wachowski étaient censés être les laveurs de carreaux du premier Matrix, qui en fait a fait l'expérience ultime en voyant Neo se jeter dans le vide, et qui du coup porte en elle en fait tout l'héritage, en tout cas ce que les Wachowski à l'époque espéraient de leur public, le personnage de Bugs dans le film est censé l'avoir porté, justement.
Sauf que la malhonnêteté fait qu'elle ne lui accorde pas la place qu'elle mérite à ce personnage-là, je trouve, personnellement, non ?
Oui, mais pour rebondir sur ce que disais, ça viendra d'ailleurs, ça viendra d'une autre personne.
De J.J. Abrams.
D'une laveuse de carreaux actuelle.
Elle est vachement charismatique, cette actrice. Celle que j'ai préférée.
Elle a un des trucs où c'est vrai que tu te dis, si jamais il y aurait... Parce que potentiellement, on peut penser qu'il y aura une nouvelle trilogie, même si je doute que le film soit un carton, quoi. L'idée, c'est que oui, ça devienne un personnage un peu plus important, quoi, dans les suites, quoi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, messieurs, parce qu'on a malheureusement assez tiré sur l'ambulance sur laquelle on ne voulait pas tirer. Hein, donc voilà.
On a peut-être donné quelques éléments aux gens. En une heure et quelques.
Pas tirer sur l'ambulance.
Tu veux dire que ça fait 1h20 qu'on n'a pas donné d'éléments, c'est ça? Merci à vous. Pas de répondeur cette semaine parce qu'on vient de vous proposer l'épisode sur Don't Look Up qui a été diffusé là cette semaine. Donc on vous invite à laisser votre avis par message vocal sur Don't Look Up d'Adam McKay que vous avez découvert sur Netflix et sur Matrix Resurrection qui est en salle donc depuis le 22 décembre. Donc du coup moi je vous dis merci à tous, hein. Merci Julien, merci Rafik, merci Yannick,
merci
Alain et merci à Clémence en fait, et on lui fait un gros bisou parce que voilà, là, elle est vraiment
bon rétablissement, Clémence.
Et, Et finalement, tu nous as quand même pas mal manqué dans cet épisode, quoi. Donc, merci à tous, bonne fête, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec deux épisodes, hein, je crois, c'est ça, Alain. Un sur Kingsman, première mission, et un autre sur Belle, de Mamoru Soda. Voilà, bonne fête.